Tous les jeudis à 9h et 17h30, la librairie Caractère Social Club à Mont-de-Marsan explore pour vous l'actualité du livre. Rencontre avec les auteurs et les lecteurs, romans, essais, recueils de nouvelles ou de poèmes, sélectionnés et présentés par vos critiques, Aurore Pourny, Anthony Clément et Romain Baxer. Tous les jeudis à 9h et 17h30, mettez-vous à la page avec Radio MDM.
Non, mais c'est pas sympa de juste d'éternuer au même moment où on prend l'antenne. Il y a des choses qui sont décidément mal faites. Ouais. Je vous rassure, je ne fais aucune allergie à vous, mon cher Romain.
Non.
Comment allez-vous? Ça va être compliqué.
Mais ne pas.
Je vous laisse
ça
prendre le relais. Allez.
Mais oui, certainement. Reprenez votre souffle.
Mon Dieu.
Alors aujourd'hui, pour nos...
Vous êtes couvert, vous avez une écharpe et tout.
Oui, j'ai une bonne écharpe, c'est important par temps d'hiver.
Totalement multicolore, c'est extraordinaire, c'est un arc-en-ciel en laine. Comment
mais
ça va?
Merci, mais vous n'êtes pas mal aussi, mon cher Anthony. Mais
j'ai mis une petite chemise de bûcheron, voilà, je suis resté sur quelque chose d'assez simple. Hein, voilà, on est dans un petit côté canadien, limite Acadie, voilà, des terres très lointaines. Vous allez nous emmener aussi,
oui,
vous, de
une
votre
terre
côté.
Terre lointaine également, je vais vous emmener dans une terre lointaine dans ma première sélection littéraire.
Oui, parce que c'est votre job.
Voilà, enfin oui, ma passion, j'ai envie de dire même.
Vous vivez de votre passion, donc.
Ce matin.
Hein, vous on auto-sustentez de mots et de lettres, mais ceux des autres.
Mais
allez, partagez-nous les
certainement,
vôtres.
Certainement, mais oui, amoureux des mots, amoureux des lettres.
Les gens n'auraient pas compris, je suis très en joie.
Ouais, Anthony est très en joie pour la raison suivante. Le second livre que je vais chroniquer,
voilà.
Vous allez voir, il va donner la pleine mesure de son talent, cet
peut-être
Anthony.
Peut-être le faire, même, je ne sais pas. Enfin bon,
allons-y. Oui, voilà, il va peut-être faire la seconde chronique, mais la première, c'est moi.
Hein, oui.
C'est moi le patron.
Oui.
Alors.
Le boss, le grand Manitou, le touch my ass, le méga plus. Oui, alors.
Alors, donc, de quoi s'est-il ma première? Mon premier chroniqué ce matin, c'est un peu un rattrapage, si on peut dire, hein, de 2019. C'est une parution de février 2019.
D'accord.
Oui, c'est une antiquité. Hein,
oui, vraiment. Dans la société dans laquelle on vit.
Dans le bouillonnement actuel, permanent, des sorties littéraires, des prix littéraires,
c'est
etc.
Presque vintage.
C'est presque une antiquité. Souvent, j'ai ça à la librairie. Ah,
qu'est-ce qui s'est passé?
D'une antiquité littéraire, février 2019.
On est passé à côté, on s'est dit non, bah attendez.
Voilà, on est passé à côté et surtout, et aussi, on a eu la chance, en fait, d'avoir l'autrice Magdalena Paris.
D'accord.
À la librairie samedi dernier dans le cadre de Lettres du Monde Festival en Nouvelle-Aquitaine qui délocalise, si je peux dire, les rencontres bordelaises dans des petites librairies de province, si on peut dire. Donc on a eu la chance de recevoir Magdalena Paris samedi dernier pour son ouvrage intitulé Le Magicien aux éditions Agulot. Donc Magdalena Paris est une autrice polonaise qui est née en 1971 et qui a émigré à 13 ans en Allemagne de l'Ouest.
D'accord.
Donc 1971.
Oui, c'est une année sublime.
À 18 ans, on était donc en 1989.
Absolument.
1989 à Berlin.
Oui, il y avait un peu de crépi.
Choses qui se passent. Il y a le
non, non, mais les maçons à Berlin, c'est plus ce que c'était. On est bien d'accord.
Ils se sont attaqués au mur, en effet, en 1989. Et donc, Magdalena Paris, en fait, un de ses projets littéraires, je rappelle que l'ouvrage dont je vais vous parler, Le Magicien, a eu tout simplement le Grand Prix de littérature européenne en 2015. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 4 ans, vous voyez, pour qu'un grand prix de littérature qui couronne vraiment une œuvre majeure européenne, vous voyez, qui revient un peu sur l'histoire européenne, sur l'identité ou les identités européennes, eh bien, elle a eu ce prix en 2015, vraiment un prix majeur. Donc, ça a été traduit uniquement cette année en français par Nadège Agulot, hein, aux éditions Agulot. On souligne d'ailleurs le travail vraiment éditorial très important de cette maison d'édition Agulot, qui n'est pas si connue que ça, vous voyez, qui est une maison assez jeune, hein, ça fait 4 ans qu'elle existe, cette maison d'édition, et qui vraiment se consacre à traduire les littératures européennes, vous voyez, plein de littératures de l'Est, polonaise, estonienne, serbe, croate, qu'on ne connaît pas très bien, mais qui est passionnante, parce qu'ils étaient vraiment, vous voyez, au creuset de l'histoire, là, de la guerre froide, et des tensions, donc, entre l'Est et l'Ouest. Donc, Le Magicien, c'est ça, en fait, ça se passe à Berlin de nos jours, vous voyez. Et le roman s'ouvre, ça peut être un polar, hein, après, ça peut vraiment être un roman noir à enquête, qu'on conseille d'ailleurs à tous nos lecteurs de polar, c'est vraiment extrêmement bien ficelé. Le Magicien s'ouvre sur un meurtre atroce, voilà, dont le torturé, si on peut dire, enfin le cadavre a subi notamment ce qu'on appelle la cravate colombienne. Est-ce que vous connaissez?
Je voulais... Excusez-moi, je sais que c'est... on parle de meurtre, mais je m'attends... la cravate colombienne.
La cravate, ou aussi
c'est une technique de meurtre, c'est pas une sicilienne, c'est pas le Kamasutra.
Non, la D'accord. cravate colombienne ou aussi cravate sicilienne, en fait,
alors, tout que simplement qu'on vous étrangle.
Pas loin. Alors disons, en fait, ça consiste. Je pense, ça se fait post-mortem. Je pense, ça se fait post-mortem, ou ça peut être se faire quand la personne est en vie. C'est-à-dire, il suffit d'inciser la trachée.
Oui.
Vous voyez, et de passer donc la main ou un objet et de tirer la langue.
Oh non.
Par la trachée. Et donc, en fait, à la fin, le cadavre, vous voyez, la langue qui ressort par la trachée.
C'est dégueulasse.
Voilà, il est donc 9h15.
Oui, mais bien sûr.
À tous.
Et c'est voilà, les Colombiens qui font ça.
Ouais, ça c'est les Colombiens, et c'est en fait un signe infamant de trahison.
Ouais, de trahison. Ouais, voilà.
Ça,
oui,
c'est vraiment la trahison.
Genre
cravate.
Le repenti. De base, et d'accord.
Voilà, donc,
la balance, les balances.
Peut-être, du moins un traître. Quoi.
Un bon traître, bien trahi comme il faut, il ne trahira plus, pour le coup.
Ouais. Certainement, il ne parlera plus.
Ah bon, ça c'est évident.
Et donc là, c'est Frank Derbar, vous voyez, qui a été donc assassiné de cette horrible manière. On l'apprend dès le début du roman. Frank Derbar a été assassiné de cette horrible façon. Et on va revenir tout au long du roman sur ses liens avec Christian Schlangenberger. Hein, c'est un peu le grand méchant, c'est un peu lui le magicien du titre du roman. Qui est Christian Schlangenberger? En fait, il faut se rappeler qu'en 1989, justement à date du mur, la chute du mur, ceux qui avaient la vingtaine, aujourd'hui ils en ont la cinquantaine.
Merci d'être venu quand même. Ça va nous aider à mieux vivre, à mieux nous projeter.
C'est pour dire qu'aujourd'hui, vous voyez, la société allemande, allemande de l'Est, mais allemande, réunifiée, est sans doute un petit peu, comment dire, pas noyautée, mais il y a beaucoup de ces...
Des lieutenants
à 20 ans de la Stasi.
Ah oui,
vous avez 50 ans aujourd'hui.
Oui, d'accord.
Ah oui, tout à fait, si vous voulez, il y a eu... Parfois, dans les chiffres, on avance qu'il y a eu un Allemand de l'Est sur deux qui a eu des contacts avec la Stasi. Des contacts, ça peut être soit une collaboration intense, soit un lieutenant de l'armée secrète, soit
une incarcération intense.
Ou une incarcération intense. Voilà, on a subi en tout cas la Stasi. Et donc, ce Christian Schlangenberger, on va voir que, sans trop dévoiler du roman policier, il a eu, c'était un soldat excellent de l'Allemagne de l'Est, notamment de la Stasi.
Zélé, très zélé.
Si on l'appelle le magicien, c'est qu'il avait peut-être notamment un don ou un talent pour faire
parler disparaître.
Des opposants politiques.
Un nettoyeur.
Il faut savoir qu'en fait, c'est ça qui est passionnant dans ce roman. C'est extrêmement documenté, extrêmement informé, que l'Allemagne de l'Est avait des liens avec les autres, bien évidemment, pays communistes, vous voyez, pour notamment empêcher tout échapper, si je puis dire, toute fuite des opposants politiques. Donc, en fait, l'opposant politique d'Allemagne de l'Est, au lieu de tenter la grande traversée de la frontière et donc du mur, soit il passait à l'Est, il passait par la Bulgarie ou par la Tchécoslovaquie pour s'échapper d'Europe centrale, aller en Grèce ou en Turquie et ensuite revenir à l'Ouest.
Juste dans l'actualité, je suis un petit pont, sans mauvais jeu de mots, avec une série qui passe actuellement qui s'appelle Deutschland 86. Il y a son préquel, le Deutschland 83, qui retrace justement cette période de manière assez intense. Dans Berlin Est et Berlin Ouest.
Oui, on est en plein dedans. La chute du mur, c'était en novembre 89. Ouais. Donc vraiment, on est en plein dans cette actualité, d'où bien évidemment aussi la raison de ma chronique. Donc le magicien, vous allez vraiment rentrer dans ces arcanes, en fait, dans ces liens du passé et du présent. D'ailleurs, on peut souligner tout un tas de citations extrêmement intéressante en épigraphe de chaque chapitre. Vous voyez, chaque chapitre, il y a une petite citation. Et vraiment, je vais me faire un plaisir de vous lire celle de Faulkner. À un moment donné, au chapitre 3, elle cite Faulkner dans Requiem pour une nonne. Je cite
ce bon vieux William.
Le passé ne meurt jamais, ce n'est même pas le passé. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a forcément des liens étroits entre présent et passé. On ne peut pas dire qu'une situation...
On ne se débarrasse jamais du passé.
Exactement. Et en Allemagne de l'Est, vous voyez, après l'occupation nazie, ils sont passés sans transition au communisme, et après la chute du mur, ils sont passés de sans transition au libéralisme. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas eu, vous voyez, un gros travail de mémoire réalisé en Allemagne de l'Est, en Allemagne réunifiée actuellement, pour vraiment traiter un peu ces démons. Et Magdalena Paris, l'autrice polonaise dont je vous parle, nous a raconté tout simplement qu'aujourd'hui encore, il y a des journalistes qui ont des pressions qui subissent des pressions politiques, des pressions d'hommes d'affaires très puissants pour pas que les choses sortent
trop. Mais enfin, j'imagine qu'on n'a pas vidé toutes les armoires.
En conclusion, je vais juste vous lire la page de fait inscrite dans le roman, hein, avant le début du roman, avant le prélude même. Magdalena Paris l'éditeur a mis les faits. Les faits, en 2010, à l'Office fédéral allemand en charge des archives de la Stasi, ont été effacés près de 6 km de dossiers. Vous avez entendu cette information?
Oui, alors je vais même vous dire qui c'est qui les a effacés. C'est un agent du KGB qui s'appelait Vladimir Poutine.
D'accord, voilà, méfiez-vous, je ne sais pas d'où vous tenez vos sources, méfiez-vous, cher Anthony.
Il faisait partie de ces gens qui ont été appelés après la chute du mur. Alors, c'est peut-être pas dans ces lieux. Vladimir Poutine a fait partie de ces gens qui arrivaient là pour effacer toute trace d'informations.
Sans doute, sauf que ça, là, en 2010, c'était totalement officiel.
Oui.
Vous voyez, c'est-à-dire, on a décidé d'effacer tout simplement 6 km de dossiers. Une des raisons avancées, c'était qu'il y avait beaucoup d'informations personnelles, notamment des numéros de téléphone
qui
auraient pu, voilà, mais c'est complètement incroyable d'effacer 6 km d'archives.
Quand je parle de Poutine, c'était donc juste après, c'était en décembre qu'on l'a envoyé, on regardait un petit peu son itinéraire, on l'a envoyé là-bas pour ça.
Donc ça, il l'a fait peut-être de manière
tout effacer, mais on a dû,
C'est pour dire qu'aujourd'hui,
c'est très officiel.
En 2010, très officiel également. Mais là, en 2010, très officiel.
Évidemment, si j'ai un accident d'ascenseur dans les heures à venir, voilà, j'aurais été prévenu.
On alertera vos confrères journalistes.
Bien sûr.
Donc voilà, juste pour le mot final, plongez-vous vraiment dans cette histoire allemande, mais tout simplement européenne.
Carrément.
Le magicien aux éditions Agulot par Magdalena Paris. C'est passionnant, c'est vraiment mené tambour battant. C'est quelques jours d'enquête en lien avec les événements avant le mur. Je n'ai qu'un mot. Courez-y, plongez-y.
Ouais, et ben ça a encore faire encore une idée de cadeau cette histoire. Je vous l'ai dit, je vais vous faire que des bouquins. Les sujets sont les plus intéressants de semaine en semaine. On va faire une pause musicale et on va se retrouver avec celui qui sera sur la scène des Cigales à Luxeuil samedi soir. Christophe Miossec est l'invité de l'association Musique à la rue et le nôtre tout de suite.
MDM, tout un monde.
S'occupe de vos oreilles.
Et MDM s'occupe de vos yeux, de votre imaginaire, de vos soirées auprès de la cheminée dans un rocking chair, ou de vos soirées aussi en extérieur avec Christophe Biosek. On le rappelle, ce 30 novembre, 20h30, ça se passe au Cigale. Et, alors, tant pis pour la rediff, mais Jeannot, tout à l'heure, vous fera gagner des places dans la matinale pour aller applaudir le divin breton sur scène. Mon cher Romain, il faut que je sois solennel. Pour parler d'un livre qui a un petit peu bouleversé, changé ma... Enfin, je sais pas, changé ma vie, mais qui m'accompagne encore aujourd'hui. Je suis ravi que vous l'abordiez, puisqu'il a été, donc il est, comment dire, réédité, repressé.
Oui, voilà, c'est un peu le train des collecteurs de Noël,
d'accord.
Vous voyez, c'est-à-dire toutes les maisons d'édition de poche, Folio, 10-18, Pocket et compagnie, voilà, rééditent leurs grands textes, vous voyez, avec une couve un peu plus travaillée, vous voyez, c'est un peu martelé, là, c'est cette couve,
ouais.
un choix graphique un peu plus travaillé. Voilà, c'est le train des collecteurs de Noël.
Le destin d'un certain John Kennedy O'Toole, deux ouais. romans, et puis c'est tout, puisque l'homme ouais. a choisi de mettre fin à ses jours parce qu'il se croyait donc un écrivain raté. Alors, de mémoire, hein, je crois, dans la préface, parce que j'ai lu ce bouquin, j'avais 18 ans, là en l'occurrence ce bouquin c'est La Conjuration des imbéciles, je crois que c'est sa maman qui se pointe chez un éditeur avec le livre sous la main, elle demande, elle supplie d'être reçue, ça se passe pas tout de suite comme elle veut, et finalement elle est reçue, et en larmes elle dit voilà, c'est le bouquin de mon fils, il en a fait deux, dont celui-là, et il était persuadé que c'était pas un écrivain, moi je suis persuadé du contraire, et donc l'éditeur lit ça et tombe littéralement en pamoison à genoux. C'est juste génial, la vie d'Ignatius Reilly, ouais. le héros, quand un imbécile apparaît en ce bas monde, on le reconnaît à ce signe que tous les imbéciles... Non, quand un génie, pardon, apparaît en ce bas monde, on le reconnaît à ce signe que tous les imbéciles sont ligués contre lui, ouais. phrase de Jonathan Swift, et qui figure en prélude de ce bouquin que vous allez...
Mais c'est une magnifique
voilà,
introduction,
tu peux pas faire mieux.
Vraiment, c'est une magnifique introduction pour La Conjuration des imbéciles, donc de John Kennedy Toole, comme vous l'avez souligné, paru en livre de poche, là, édition 10-18, c'est un classique, la littérature américaine, hein, comme vous l'avez dit, qui a été publié 10 ans après donc, la mort hein, de ouais. l'auteur, hein, c'est une édition posthume, en fait, il a mis fin à ses jours, comme vous l'avez dit, à l'âge il avait une trentaine d'années,
hein,
en 69, il a mis fin à ses jours, il est né en 37, hein, voilà.
Ouais.
Et en fait, donc sa mère, en effet, a fait un peu la sherpa d'éditeur en éditeur, persuadée vraiment que c'était un grand texte. Je précise que John Kennedy Toole était lui aussi convaincu, en fait, de son chef-d'œuvre. C'est,
ouais.
c'est curieux, mais d'après les notes que j'ai pu lire, il était vraiment convaincu que c'était un grand, grand texte,
ouais,
et qu'il se heurtait à une espèce de mur incompréhensible de l'édition.
Bah, d'où la phrase qu'on trouve en,
ouais,
en
voilà,
préface.
Voilà, tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, il faut aussi,
c'est un génie.
Il faut aussi oui, souligner qu'il a eu tout simplement le prix Pulitzer
en
81, si je me souviens bien, suite à l'apparition, enfin, une dizaine d'années après, de son texte. Alors, de quoi s'agit-il, Ignatius O'Reilly? Alors, c'est le personnage, vous voyez, central, hein, c'est lui qui donne le corps au texte, c'est vraiment, c'est peut-être un double de l'auteur également,
oui, voyez,
parce que Ignatius Reilly, il vit chez sa mère, il a la trentaine, il vit chez sa mère, comme l'auteur à l'époque, vous voyez, il n'arrête pas de pester contre, justement, les imbéciles, les idiots, ceux qui n'ont rien compris, c'est une espèce d'insurgé, quoi, c'est une espèce de rebelle quotidien,
ouais.
Il est énorme, vous voyez, c'est une grosse masse qui s'est fait poser un anneau pylorique,
ouais.
voilà, vous vous rappelez de cet anneau gastrique, cet anneau pylorique,
oui.
hein, pour l'empêcher de grossir, donc souvent au détour voilà, d'un petit désagrément du quotidien, ah, ben, son anneau pylorique le travaille, donc c'est un peu un gimmick là, tout au long du roman, son anneau pylorique, voilà, c'est vraiment, en fait c'est un roman, difficile d'en parler, parce que c'est un roman sur rien, vous voyez,
c'est-à-dire que
on suit cette espèce de loser magnifique, de petit job, à un moment donné ils vendent des hot dogs, vous voyez, c'est vraiment, il s'en fait presque un sacerdoce, un vendeur de hot-dogs. Bon, il les mange plus qu'il les vend au final, donc ça pose problème à son employeur. Vraiment, Ignatius, c'est voilà, un des anti-héros phares de la littérature,
ouais.
qui n'a cessé d'ailleurs d'être repris après, hein, fin du 20e. Ces espèces de perdants magnifiques,
oui,
là, comme ça, qui...
Voilà, spoiler le destin, mais
non,
bon,
non, on va pas tout
bouquin.
Dire, mais je peux peut-être vous lire un tout petit... petit début.
Ouais, parce que comme vous le dites, c'est dur de raconter une trame parce que ouais, ça part sur rien en fait.
Ça part sur rien.
Et ça fait 500 pages.
Il y a un perroquet.
500 pages de génie.
Il y a un perroquet à un moment donné, mais c'est voilà, un roman sur rien. C'est un roman flaubertien, vous savez, ma grande vocale.
Ouais.
Voilà, ma Flaubert attitude. Bon, ben là, c'est exactement le cas vraiment. Hein. C'est un grand roman, voilà, sur rien, où l'auteur a mis voilà, tout de lui, mais rien de visible. Vous voyez, c'est donc un énorme plaidoyer aussi contre la bêtise ambiante. Vous voyez. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été écrit, ça, donc dans les années 60, hein, vous voyez, donc juste après-guerre, on n'est pas encore vraiment dans l'époque contemporaine. C'est pour ça que là, comment aujourd'hui, vous voyez, un jeune de 18 ans que vous étiez, il y a en plus
oui,
une cinquantaine d'années, eh bien, vous voyez, c'est incroyable de voir comment ça peut nous parler, en fait. C'est-à-dire que, et je suis sûr qu'aujourd'hui, un jeune de 18 ans qui lit un peu pareil,
ouais.
il va
je tomber. Je sais pas, il faudrait que je le relise, je sais pas qu'est-ce que ça fait 30 ans après.
Ouais, moi je l'ai fait lire vraiment à plein de mes cousins qui avaient la vingtaine d'années, ils ont tous adoré.
C'est le bouquin
d'une vie. Il y en avait qui lisaient pas du tout, même. Ignatius, voilà. Donc voilà. Donc pour raconter un peu Ignatius, on peut lire le début, ce que je vais faire là, le début d'une lettre, parce que ouais. Ignatius, à un moment donné, travaille dans l'usine de pantalons Lévy, voilà. Donc Lévy,
oui,
on connaissait la Lévis maintenant, mais en tout cas les pantalons Lévy, vous voyez. Donc Ignatius, lui, comme il sait écrire, il a des lettres.
Ouais,
eh bien,
ouais.
On l'a mis aux réclamations, vous voyez. Donc il s'occupe des réclamations. Et là, en l'occurrence, il vient de recevoir une réclamation, donc de Monsieur I. Abelman, PDG et quasi-mongolien, c'est lui qui l'écrit, hein, c'est Ignatius qui écrit ça en l'entête, parce que eh bien, ce monsieur I. Abelman a eu la malchance de se plaindre, parce qu'en effet, les pantalons ne faisaient pas un mètre de jambes, mais que 60 cm, c'est un peu difficile. Alors lui, qu'est-ce qu'il écrit, Ignatius Reilly ? Nous avons reçu par la poste vos absurdes commentaires concernant nos pantalons, commentaires qui révélaient surtout votre complet manque de contact avec la réalité. Eussiez-vous été tant fût peu plus conscient, vous eussiez aussitôt compris que l'expédition des pantalons en question s'était faite en toute connaissance de cause quant à l'anomalie de la longueur des jambes. Mais alors pourquoi direz-vous dans votre babil irresponsable, incapable que vous êtes d'intégrer les concepts les plus stimulants du commerce moderne à votre vision du monde retardataire et dégénéré, etc., etc., etc. On voit vraiment...
Ça se passe comme ça dans sa tête,
voilà,
c'est paradoxal avec l'apparence du monsieur.
Tout à fait. Il finit juste sa lettre en disant, donc à un client quand même de son entreprise, hein, « Si vous nous importunez de nouveau, vous sentirez, monsieur, la brûlure de notre fouet en travers de vos pitoyables épaules. » Voilà, Ignatius Reilly, vous voyez.
C'est comme ça, quelqu'un d'assez acide et désespéré, qui est un peu à l'étroit dans le monde dans lequel il vit.
Voilà.
Et dans son pantalon aussi.
Avec toujours beaucoup d'humour, cet humour acide, cette ironie. Quoi,
L'ironie du désespoir, simplement. La conjuration des imbéciles, c'est le bouquin, je le disais, d'une vie pour le lecteur, en l'occurrence votre serviteur, certainement vous aussi, si vous ne l'avez pas lu.
C'est un peu la bibliothèque idéale, vous voyez, en cette période de Noël.
Carrément.
Voilà, si j'annonce vite...
Ouais, juste un petit mot à propos de John Kennedy O'Toole. Vous parlez peut-être du deuxième roman qui est peut-être passé un petit peu plus inaperçu, beaucoup plus court, qui s'appelle La Bible de Néon, c'est dur de passer derrière un truc pareil.
Juste un petit
mot pour les mélomanes, c'est le bouquin a inspiré le nom au second album du groupe Arcade Fire, qui s'appelle Neon Bible,
Bien,
au milieu. Ce qui nous fait une transition pour parler de musique, de rencontres,
rencontres culturelles à la librairie Caractère.
Ouais.
Ce soir à 18h30, nous aurons les AOC, les AP apéro d'origine contrôlée, mais apéro débat avec le collectif Bordeaux Nord autour du livre Nous Autres. Nous Autres sont des chroniques.
Et une conteuse.
D'aventure de théâtre et de femmes. Il y aura Halima Hamdané, une conteuse et écrivaine. Donc avec ce collectif Bordeaux Nord qui favorise l'accès à la culture en lien avec un centre social et des théâtres. Ça, c'est ce soir à 18h30. Et demain à 19h, surtout ne ratez pas François Bégodeau, qui nous fait l'honneur d'être donc à la librairie Caractère demain à 19h. Vous savez, c'est l'auteur de Entre les Murs, hein, qui a eu la Palme d'Or, l'adaptation a eu la Palme d'Or en 2008 à Cannes, par Laurent Canté. Et là, il nous vient pour pour son livre Histoire de ta bêtise, qui est un pamphlet paru en janvier 2019, où en gros, il essaye d'évoquer, de définir, de circonscrire la bourgeoisie en lien avec la situation politique aujourd'hui.
Il a dû lire La Conjuration des imbéciles.
Ah ouais, je pense. Qu'il a lu, il s'en est inspiré, donc c'est demain soir à 19h à Libri Caractère.
Merci. Voilà, je ne le dis pas assez souvent. Merci beaucoup,
merci
Romain. À bien des
égards. Anthony, également, un passionné de livres, Kennedy Toole, qui vous a marqué à vie. Ça fait plaisir.
Mais plaisir d'offrir et joie de recevoir. Allez, le retour à la musique, à la pub, à tout ce que vous voulez. Embrasser le monde pour moi.
Également.
L'actualité du livre sur MDM, c'est tous les jeudis à 9h et 17h30. Retrouvez votre sélection littéraire et le programme des animations à la librairie Caractère Social Club sur la page Facebook de Radio MDM.